Vous écoutez, on lit pour vous.
Nos standards de féminité sont-ils transphobes? Un texte de Malia Kunku, paru le 16 août 2024 dans Urbania. Dites-moi votre taux exact de testostérone et je vous dirai ce que vous êtes. Soit. Imaginons, le temps d'un article, que la boxeuse algérienne et médaillée d'or olympique, Iman Khelif, soit effectivement un homme. Après tout, c'est l'hypothèse qui semble faire l'unanimité d'une certaine frange de la population, de la Fédération internationale de boxe, IBA, à Elon Musk, J.K. Rowling, Logan Paul ou encore Donald Trump, surtout depuis sa victoire en 46 secondes contre l'Italienne Angela Carini, qui refusera ensuite de lui serrer la main pour cause de combat qu'elle a qualifié d'injuste, clamant n'avoir jamais été frappée aussi fort. Aux yeux du monde entier, la force de ce point sera une preuve suffisante pour qualifier Iman Khelif d'homme se faisant passer pour une femme. D'autant plus que, au cours de la carrière de la boxeuse, cet incident survenu en huitième de finale des Jeux olympiques est loin d'être un cas isolé. En effet, au championnat du monde féminin de boxe amateur de 2023, Iman Khelif et son homologue taïwanaise, Lin Yu Ting, avaient effectivement été disqualifiés après avoir échoué à un test de genre, des chromosomes mâles XY ayant été vraisemblablement découverts dans leur caryotype. Et puis, aux Jeux olympiques de 2024, nouvelle allégation biologique, celle d'une sécrétion élevée de testostérone dont dépend la vitalité physique et sexuelle des hommes. Mon enfant est une fille. C'est une fille forte. Je l'ai éduquée pour qu'elle travaille et qu'elle soit courageuse. Iman est un exemple de la femme algérienne, affirme pourtant son père, Omar Khelif, qui montrera à l'AFP des photos de son enfant plus jeune pour prouver qu'Iman a toujours été une femme. « Je suis une femme comme les autres. Je suis née femme, j'ai vécu en tant que femme et j'ai concouru en tant que femme », renchérit pour sa part Iman Khelif, qui, dès la médaille d'or glissée autour du cou, portera plainte pour cyberharcèlement aggravé, citant entre autres les noms de J.K. Rowling et d'Elon Musk. Mais, avec des preuves qui semblent s'empiler jusqu'au ciel, qui, finalement, dit vrai? Pour élucider ce supposé mystère, prétendons donc, à notre tour, que la boxeuse soit effectivement un homme et allons au bout de chaque argument. Le calvaire des ovaires. À commencer par celui de la testostérone, cette hormone stéroïdienne que les hommes doivent remercier pour leur masse musculaire, leur pilosité, leur voix grave, leur libido, ainsi que l'appareil reproducteur qui lie leur pensée à l'action. Cette hormone est également présente chez les femmes, bien qu'en toute petite quantité, juste assez pour maintenir un corps sain, des os solides et un taux d'estrogène dominant. Que se passe-t-il, toutefois, quand une femme produit naturellement un surplus de testostérone? Reste-t-elle une femme ou bien est-elle, sur le plan biologique, un homme? La féminité ne se joue pas qu'au niveau hormonal. Ça définit qui on est et surtout comment on se sent, me répond la créatrice de contenu francophone Capucine Coudrier, qui se définit comme femme cisgenre, malgré un niveau de testostérone considéré comme très légèrement au-dessus de la moyenne. Elle n'y peut rien, après tout. Si se sont abattues un jour sur elle les foudres du syndrome des ovaires polykystiques, plus communément abrégé SOPK. Chronique, méconnue et incurable, cette condition médicale se caractérise par un dérèglement hormonal qui s'accompagne souvent de menstruations irrégulières, de fluctuations d'humeur, d'une prise imperdable de poids, d'acné, de diabète ou encore de kystes ovariens cancérigènes. Elle peut également provoquer une surproduction de testostérone appelée hyperandrogynie, aux effets dits virilisants, pouvant troubler celles qui en souffrent dans leur féminité. On parle donc d'hirsutisme, hyperpilosité épaisse dans des zones habituellement imberbes chez les femmes, de calvitie, de fatigue intense ou d'infertilité. Tous des symptômes qu'endure simultanément Capucine. C'est une grosse charge mentale d'y penser tout le temps. C'est vraiment dur de se sentir diminué par la maladie, considère celle qui fait désormais de la sensibilisation au sujet du SOPK via son compte Instagram, un commercial au vert de Rainbow. Dur aussi de continuer à se sentir femme, selon ce que confie Anaïs, 32 ans. C'est seulement 3 ans plus tôt qu'elle a enfin pu poser le mot SOPK sur une suite de changements corporels inexplicables ayant cours depuis ses 17 ans, y compris un ventre ou une pilosité comme peuvent avoir les hommes. Si elle dit avoir depuis réappris à aimer son corps et à se sentir désirable envers et contre tout, voire le taux élevé de testostérone sur son bilan hormonal n'a d'abord pas été une source de soulagement. C'est un peu difficile à vivre, parce qu'on a l'impression d'avoir été une fraude toute notre vie. On se dit, en fait, je n'ai pas le corps ou le bilan sanguin qu'une femme devrait avoir. Imane Khelif, que plusieurs soupçonnent d'avoir une hyperandrogynie, lui conférant un avantage sportif indu, se situerait-elle donc dans cet entre-deux? Le test de la testostérone. Nul ne sait. À ce jour, et qu'importe les éléments qui nous pousseraient à supposer la présence d'un SOPK ou de l'hyperandrogynie, Imane Khelif ne s'est jamais prononcé là-dessus. Pas même l'IBA n'a vérifié ce paramètre hormonal dans son fameux test de genre en 2023. Reste qu'en principe, invalider la féminité d'une personne sur la seule base hormonale serait un raisonnement erroné, selon Capucine. Entendre « si tu as plus de testostérone que la moyenne, tu n'es pas une vraie femme », c'est très agaçant. Ce serait bien de comprendre qu'on a toutes des taux d'hormones différents. Déjà, en 2021, le média de vulgarisation Scientific American prévenait que la testostérone n'était pas une entité mystérieuse qui surgit de nulle part et qui serait capable d'imposer la pluie et le beau temps dans le corps d'une personne, mais plutôt une hormone qui fluctue selon le comportement et les normes sociales. Est-ce qu'un degré élevé de testostérone rendra nécessairement une femme plus compétitive qu'une autre, notamment dans le domaine du sport? Sans doute. Mais Scientific American précise aussi qu'après avoir gagné une compétition ou remporté un simple défi qui boosterait suffisamment l'ego, n'importe qui pourrait voir son niveau de testostérone augmenter. Quant à un possible avantage sportif, n'est-il pas chose commune dans le sport de s'appuyer sur ses atouts naturels? Bizarrement, on ne fait pas les mêmes débats avec Wembanyama et son 2,20 m, Phelps et ses immenses pieds, ou encore Marchand et sa superbe récupération physique liée à sa très bonne génétique, fait remarquer Capucine, citant d'éminents athlètes masculins, eux aussi favorisés sur le plan génétique. Le dernier mystère biologique à élucider serait donc celui de la présence de ce fameux karyotype de chromosome mâle XY chez Imane Khelif et Ling Yuting. Une découverte suffisamment incriminante pour que l'IBA les accuse de tromper leurs collègues en se faisant passer pour des femmes. Seulement, que fait-on des personnes intersexes possédant des chromosomes XY ainsi qu'une anatomie féminine externe? Car elles existent en nombre, surtout dans le sport d'élite. Seraient-elles donc toutes des hommes se faisant passer en connaissance de cause pour des femmes? Là encore, la revue Scientific American nous apprend qu'en général, les différences anatomiques sont si minimes que beaucoup de femmes intersexuées ne se découvriront jamais comme telles, vivant leur féminité comme une évidence. Et pour celles qui le découvriront, l'univers sportif pourrait alors être un choix aussi évident que pour un Michael Phelps sautant dans une piscine à l'âge de 7 ans. Vous écoutez « Nos standards de féminité sont-ils transphobes? » un texte de Malia Kunku, paru le 16 août 2024 dans Urbania. La police du beau. Bon. Si aucun facteur biologique et invisible ne suffit pour affirmer qu'Iman Khalif serait un homme, ce visible le pourrait-il? Sans doute que oui, son physique ne serait pas autant passé au crible depuis 2 semaines, sinon. Mâchoire angulaire, épaules carrées, bras musclés. On ne manque pas depuis 2 semaines de pointer chez la boxeuse tous ses traits un peu trop éloignés d'une féminité classique. Mais quelle serait-elle, cette grille universelle de féminité, dans un monde de critères esthétiques sans cesse en évolution? Dans les années 2000, l'actrice Angelina Jolie était maintes fois nommée « plus belle femme du monde », avec une mâchoire plus carrée encore que celle d'Iman Khalif. Dans les années folles, la mode garçonne aurait fait de la boxeuse une reine de beauté. En 2018, la même fermeté athlétique qu'elle arbore sur le ring était considérée comme le nouvel idéal corporel féminin. À moins que ce ne soit justement le ring le problème. Certains sports seraient-ils si masculins qu'une femme, pour l'exercer, serait obligée de laisser sa féminité au vestiaire? Si la réponse est oui, sachez qu'un débat similaire a déjà eu lieu dans les années 80 avec une autre médaillée olympique, la cycliste française Jenny Longo. Dans une entrevue d'archives récemment rediffusée par Brut, son choix de carrière sera fougueusement remis en question par un autre cycliste, Marc Madiot, au nom du respect du côté esthétique du sport. Vous, les cyclistes féminines, vous êtes moche. Je suis désolé. Voir une femme sur un vélo, c'est moche. Se prend ainsi en pleine figure la cycliste française médaillée à de multiples reprises. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et auront des cuisses un peu plus jolies, c'est tout, exprime-t-il. Que doit-on déduire de ces paroles exactement? Qu'il faudrait, pour être officiellement considérée comme féminine, que Jenny Longo et Iman Khalif aient d'abord été des objets de désir aux yeux de Marc Madiot et donc du reste des hommes. Que ceux-ci forment le jury devant lequel toutes les femmes de ce monde doivent défiler pour que leur féminité soit niée ou légitimée par les fantasmes de ces messieurs. Toutefois, on comprend mieux la découpe des tenues sportives féminines systématiquement plus érotiques que fonctionnelles, et ce, malgré les nombreuses plaintes des joueuses. Une tradition à laquelle les Jeux olympiques n'ont d'ailleurs pas échappé. À peine les maillots des athlètes américaines étaient-ils révélés par Nike, que la marque se retrouvait ensevelie sous des accusations de sexisme, le symbolique morceau de tissu couvrant l'entrejambe des coureuses contrastant brutalement avec le short recouvrant à moitié les cuisses des coureurs. C'est un costume né de forces patriarcales qui ne sont plus bienvenues ou nécessaires pour attirer l'attention sur le sport féminin, dénonçait la coureuse et championne américaine Lauren Fleshman. Ce même sceau patriarcal, autrefois nécessaire, priverait-il donc aujourd'hui Iman Khalif de son droit à la féminité? Elle, dont la force n'a jamais été envisagée comme possible pour une femme, dont les traits nord-africains sont aux antipodes des standards esthétiques occidentaux et dont la rage de vaincre détonne avec la docilité exigée des critères de féminité. Elle, qui n'est pas un fantasme, et qui ne peut donc pas être une femme. Tous les chemins mènent à la transphobie. Alors soit. Prétextons qu'Imane Khelif n'est pas une femme cisgenre, ou bien qu'elle le soit. À ce stade, qu'est-ce que cela changerait à l'histoire? Absolument rien, me répond Céleste Trianon, juriste et activiste transféminine, pour qui le véritable problème réside moins dans l'invalidation du genre que dans la volonté de déshumaniser. Elle ne mérite pas d'avoir son humanité respectée et défendue parce que c'est une femme, mais parce que c'est un être humain. Point final, soutient Céleste. La boxeuse elle-même semble l'avoir compris d'emblée en centrant son combat sur le plan de sa dignité humaine, répétant comme très simple ligne de défense qu'elle est une femme parce qu'elle en est une, aussi simple que ça. Ou peut-être pas, car ce fait ne cesse d'être remis en question, non pas pour défendre l'idée de féminité, mais pour condamner son élargissement à une réalité plus diverse. Cette polémique avec Imane Khelif, qui est une femme cisgenre, est teintée de transphobie, puisque c'est une rhétorique d'arguments transphobes et réactionnaires qui sont utilisés contre l'athlète, distingue Capucine. Et aux premières lignes de cette rhétorique, les femmes transféminines que l'on érige constamment en contre-exemple et en menace à une vraie féminité. C'est pourquoi chaque compétition sportive féminine, ou presque, s'accompagne cycliquement d'une transvestigation virtuelle, soit ce mouvement transphobe qui vise à démasquer des personnalités publiques aux attributs de féminité, suspects. Mâchoire carrée, muscles prononcés, testostérone. Vous voyez à présent le topo. C'est ce qu'a vécu la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya, disqualifiée des Jeux olympiques de 2019 pour ses traits hyper-androgènes et intersexués, puis forcée à réduire médicalement sa testostérone au détriment de sa santé. Quant aux accusations d'être biologiquement homme, elles ont été combattues par la joueuse de tennis Serena Williams pendant une bonne partie de sa carrière. C'est de la transphobie, de la misogynie et du racisme, donc la transmisogynie noire. Et c'est si répétitif que ça devient systémique, remarque Céleste. Le combat à ses yeux reste le même, qu'il s'agisse d'Imane Khelif, d'une athlète s'identifiant comme transféminine, d'une coureuse de 9 ans aux cheveux courts ou de toutes les femmes vivant leur féminité au gré de leur SOPK. Il n'y a aucune différence entre une femme transgenre mégenrée et une femme cisgenre mégenrée. Dans les deux cas, c'est un déni de soi. C'était « Nos standards de féminité sont-ils transphobes ?» un texte de Malia Kunku, paru le 16 août 2024 dans Urbania.
Vous voulez bâtir une maison en chanvre ? Une filière prend forme au Québec. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 17 octobre 2024 dans Le Devoir. En 2019, Philippe Fortin et Maxime Saint-Pierre finissent leur baccalauréat en ingénierie à l'École de technologie supérieure. Les deux amis s'intéressent aux matériaux de construction alternatifs qui permettent de réduire l'empreinte carbone des bâtiments, un sujet essentiellement éclipsé dans leurs cours à l'université. Les matériaux biosourcés, composante idéale d'une économie circulaire, piquent particulièrement leur curiosité. De fil en aiguille, il tombe sur la perle rare, le chanvre. On a découvert que le chanvre avait un potentiel énorme pour s'intégrer dans l'économie locale du Québec, explique Philippe Fortin, 5 ans plus tard. Avec son partenaire d'affaires, le jeune homme pilote maintenant Eco Innovation Chanvre, l'une des petites entreprises qui élabore une filière du chanvre dans la province. L'objectif, alimenter l'industrie de la construction avec des matériaux écologiques complémentaires au bois. Le chanvre, Cannabis sativa, de son nom scientifique, se décline en plusieurs variétés, des narcotiques qui procurent une espèce d'ivresse peuplée de rêves délicieux, Marie-Victorin, et d'autres essentiellement dépourvus de substances psychoactives qui offrent des fibres solides utilisées par les tisserands depuis des millénaires. Sa paille, la chènevotte, recèle quant à elle d'excellentes propriétés absorbantes et isolantes. En France, le chanvre pousse fort dans le secteur de la construction depuis une quarantaine d'années. On y mélange de la chènevotte et de la chaux, de l'oxyde de calcium, pour faire un béton isolant. La maison en chanvre traditionnelle comporte une ossature en bois. Sur ce squelette, on coule des murs de béton de chanvre d'une épaisseur de 30 cm. C'est d'abord le confort prodigué par le matériau qui fit des adeptes. Le béton de chanvre agit comme une batterie thermique, explique M. Fortin. En hiver, il fait office de manteau grâce à l'air qui l'emprisonne. Qui plus est, l'humidité qui s'infiltre dans le chanvre se condense et libère son énergie latente, ce qui chauffe un peu la maison. 6 mois plus tard, durant les chaudes journées d'été, l'eau emprisonnée s'évapore et se faufile hors du béton, agissant comme un climatiseur naturel. C'est ce qui fait que ce matériau est hautement performant, explique l'ingénieur. Au Québec, il existe des maisons incorporant du béton de chanvre, mais ce sont des oiseaux rares. Depuis 2020, Eco a épaulé quelques autoconstructeurs qui bâtissent ou rénovent leurs maisons eux-mêmes. La petite entreprise a aussi développé une recette de chaux mêlée à un additif, le métakaolin, un sous-produit de l'industrie du verre, qui donne les mêmes résultats que la chaux hydraulique d'Europe, indisponible de ce côté-ci de l'Atlantique. Éponge de carbone. Pour que les oiseaux rares fassent des petits, une condition s'impose. Homologuer les matériaux de chanvre. Un défi relevé en avril 2024 par Nature Fibre, un manufacturier de produits d'isolation biosourcés établi dans la ville de Val-des-Sources, anciennement connue sous le nom d'Asbestos. Après des années d'efforts, l'entreprise fondée en 2017 a obtenu le printemps dernier une évaluation de conformité au Code national du bâtiment pour son isolant en fibre de chanvre. Ces panneaux, destinés à remplacer la fameuse mousse rose qui enveloppe les maisons, étaient déjà sur le marché, mais ne suscitaient pas la confiance de tous les ingénieurs, architectes et entrepreneurs avant leur homologation. Leur résistance au feu, à la moisissure et à la corrosion est désormais attestée. Enfin, on peut aller voir tout le monde pour faire connaître le produit, explique Christiane Bérubé, la directrice générale de Nature Fibre, qui observe déjà un bond des ventes. L'empreinte carbone des isolants et des bétons de chanvre est fort enviable, comme le bois. Il séquestre le CO2 avalé par la plante durant sa croissance. Sauf que le chanvre le fait beaucoup plus rapidement que les arbres. Grâce à son cycle de croissance court, il est plus efficace pour emmagasiner du carbone, souligne M. Saint-Pierre. En ce qui concerne la chaux, sa production entraîne des émissions de CO2, mais le matériau absorbe ensuite du carbone dans l'air pendant des décennies, grâce au procédé naturel de recarbonation. Prendre la clé des champs. Pour l'instant, tant Eco que Nature Fibre doivent importer leur chanvre de la France, de l'Alberta ou du Manitoba parce qu'aucun producteur québécois ne se consacre à cette culture. À Val-des-Sources, on promet toutefois de combler ce vide. Ici, on a connu la fermeture de la mine d'amiante en 2012. À la recherche de nouvelles orientations économiques, on s'est dit « Pourquoi ne pas s'inspirer de notre passé de la fibre d'amiante qui était utilisée pour fabriquer énormément de matériaux et la remplacer par une fibre naturelle ?» raconte Karine Thibault, conseillère stratégique pour la filière des éco-matériaux à la MRC des Sources. après une décennie à soutenir le développement de la filière du chanvre, ce qui déboucha sur Nature Fibre, notamment, la MRC cherche maintenant un producteur agricole qui acceptera de consacrer quelques hectares à une vitrine de démonstration. Cela permettrait notamment la mesure du tonnage à l'hectare. Madame Thibault espère mettre ce plan en œuvre durant les deux prochains étés pour ensuite convaincre des fermiers de plonger officiellement. Quand des champs de cannabis sativa, une culture interdite au Canada de 1938 à 1998, ondoieront au vent de la MRC des sources, il faudra procéder à une transformation de la matière première. Pour cela, un défibreur industriel, une machine coûtant plusieurs millions de dollars, sera nécessaire. Cet équipement sépare l'écorce de la tige, la fibre, de sa moelle, la chènevotte. Un organisme, la Société québécoise de développement des plantes industrielles, s'efforce de mettre sur pied une telle usine dans la région et de trouver des investisseurs. Briser les patterns. Pour créer une chaîne du chanvre 100% québécoise, il faudra assembler tous les maillons: culture, transformation, manufacture, certification. Or, chacun de ces éléments dépend des autres pour voir le jour. C'est l'œuf ou la poule, dit Madame Thibault, pour illustrer les défis de la filière naissante. Tous les acteurs veulent voir l'État s'impliquer dans la solution en intégrant des matériaux de chanvre dans ses propres bâtiments, comme en France, où on construit des écoles en chanvre. Chez ECO, on sait bien qu'une certification au Code national du bâtiment est essentielle pour sortir le béton de chanvre de la marginalité. Tant que le produit n'y sera pas reconnu, il ne sera pas admissible à la garantie offerte aux maisons neuves. Pour accélérer son homologation, ECO envisage d'importer des blocs manufacturés en Europe déjà conformes à des normes de sécurité et de qualité. Une usine pourrait ensuite voir le jour ici. À un moment donné, il faut briser les patterns et prouver que ça fonctionne, lance M. Fortin. C'était « Vous voulez bâtir une maison en chanvre? Une filière prend forme au Québec », un texte d'Alexis Riopel paru le 17 octobre 2024 dans Le Devoir.